Dernier roman, raconte un peu l'histoire d'un jeune homme qui a été un peu moi dans les années 60, qui a fait son service militaire en Algérie pendant la guerre, et nommé professeur de lettres dans une petite ville de province que j'ai appelée Montauvert, dans le Poitou. C'est un jeune homme, il vient de divorcer, il est un peu âme, mais c'est le pays des âmes, le Poitou. Et là, il enseigne le latin et le français. Il vit dans une maison qui penche au bord de la rivière Tant. Et il a beaucoup d'aventures amoureuses. C'était sa manière de meubler les instants. Il est très louche, très timide avec les femmes. Et parle seulement c'est ce qui leur plaît. À l'époque, ça m'a changé depuis. Et donc, j'ai essayé d'inventer un livre qui soit à la fois léger et grave. Grave sans le dire et léger toujours. Une espèce de musique du centre de la France, qui tamise un peu les bruits du monde, et qui fait entendre une sorte de voix moyenne devant les horreurs du monde. Il en sort des horreurs de la guerre, et il peine à retrouver la paix de l'âme. Et c'est ainsi que j'ai essayé de traiter ce portrait d'un jeune homme indécis, évasif, emporté par l'air de son temps, qui essaye de prendre conscience de lui-même, et qui s'invente des romans. C'est ainsi que commence le dernier roman. Alors, pour répondre à votre question, le dernier des romans, c'est peut-être aussi le dernier des écrivains. Celui qui héroïse la langue, qui ne se satisfait pas de la réalité. Nous sommes dans une époque de minimalisme, où on voit les titres de films, les titres de livres. On voit, par exemple, dans les émissions littéraires, on vous dit... On commence par dire le nombre de livres vendus, jamais la qualité d'abord, le nombre de spectateurs assistants à un film, jamais la qualité du film. Donc, le roman, c'est le contraire de ça. C'est celui qui héroïse la réalité. Or, il s'ouvre dans ce collège où il est prof, Samuel Saint-Denis, il a un collègue qui fait une thèse sur les latins, sur le juste. Et donc, il parle. Il enseigne le latin, et le latin, il l'enseigne à toutes les filles qui te séduit. Le latin devient la langue de l'amour. Car il se trouve une anecdote pendant son service militaire en Algérie. Il était sous-lieutenant, ce personnage, il avait réellement été sous-lieutenant en Algérie, d'artillerie, un jour, lors d'une opération sur la frontière tunisienne contre la Hélène. Dans une ville romaine enfouie dans les sables, il y en a plein. Il s'aperçoit qu'il est dans la ville de Mador. Au Mador, c'est la ville natale d'un écrivain latin algérien, un humide, comme on dit à l'époque, qui s'appelle Apulée, qui a écrit l'âme d'or. L'histoire d'un jeune homme changé en âme, et qui, pour reconquérir son enveloppe humaine, doit manger des roses. Eh bien, lui, dans son Poitou, où il est prof, il essaie de manger, de cueillir la fleur du sexe des femmes qu'il séduit pour essayer de ne plus être un homme devant la réalité, de devenir enfin dans sa mythologie personnelle un adulte, c'est-à-dire un cheval, enfin, un homme responsable. Il n'y arrive pas. Il est toujours irresponsable dans ses actes. Et c'est ainsi que la métaphore de l'âme, du jeune homme changé en âme, se perpétue dans le Poitou dans les années 60. Et c'est en ce sens-là qu'il est à la fois âme du Niou du Poitou et romain.
Et au niveau de la narration, il y a un autre couple qui est Castor et Pollux. Pollux, c'est Canobie. Castor, on a l'impression que c'est Canobie plus vieux. C'est votre construction autobiographique, elle est assez ici originale.
Je suis né au mois de juin. Le 5 juin 1930, j'ai 78 ans. Je suis un gémeau dans l'astrologie. Les gémeaux ont deux étoiles, Castor et Pollux. Le livre est écrit, c'est le vieux Castor de 78 ans qui se rappelle ce qu'il était quand il avait 30 ans, de Pollux. C'est en ce sens-là que ça se joue, ça me permet de jouer sur le temps, d'évoquer les années 60, ce qu'elles étaient, et maintenant. Parce que nous sommes dans une époque assez brutale, violente, qui est plus quantitatif que qualitatif. C'est tout ça que j'essaie de dire. Alors, c'est un roman qui raconte les aventures amoureuses d'un jeune homme, les aventures pédagogiques d'un jeune homme, qui essaie de meubler le roman d'une autre façon, pour pas toujours raconter les histoires de la même façon. J'ai essayé de faire que le latin devienne la langue du plaisir. N'oubliez pas, pour ceux qui ont fait du latin ici, que la première déclinaison, c'est Rosa la rose. C'est la même chose. C'est la rose de l'âme. Et c'est tout ça. Il fallait inventer. Moi, quand je commence à écrire, je n'ai jamais de sujet. J'ai la langue. Voilà. Un jour, j'ai les titres. J'ai eu le dernier des Romains. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Un autre de mes livres s'appelle La croyance des voleurs. Je ne savais pas ce que c'était. Et puis j'ai eu un jour la première phrase. Chez nous, on a une table, cette chaise, plus éternité. Ce plus éternité m'a fait écrire le livre. J'ai la langue et avant le sujet. Le sujet n'a pas beaucoup d'importance. Le sujet apparent, il y a le sujet profond. Le sujet profond, c'est le style qui le sait. Les mots en savent plus que vous. Le mystère, c'est je sais, quand les mots m'amèneront vers une histoire. Ça, c'est le mystère. Par exemple, un jour, un livre autobiographique, ça je savais, je sais l'autobiographie, mais comment rendre inconnu l'autobiographie? C'est ça le problème. Un autre de mes livres s'appelle 1945. Ça commence comme ça. Je me rappelle, l'éditeur m'avait dit, change la première phrase, on va croire que tu es homo. Ça commence comme ça. Je souffre avec un soldat allemand. Je serai trop la nuit à cause de la nuit. Mais si puis-je, si cette mégère tarde à devenir ma sœur inconsolable, eh bien cette mégère tarde à devenir ma sœur inconsolable m'a fait écrire le livre. Je ne savais pas trop ce que ça voulait dire. C'est toujours comme ça chez moi. J'ai toujours la langue qui me dessine les lignes de force qui m'amèneront à une histoire. Le mystère, c'est ce que je sais sans savoir, sans savoir l'histoire.
Et dans sa maison qui penche, en fait, Samuel Kennedy remplit des cahiers qui s'appellent des cahiers impossibles. Ces cahiers existent.
Oui.
Et c'est la matrice de l'homme.
Quand j'étais jeune homme, j'ai toujours écrit. J'étais un très mauvais élève à l'école, très mauvais. Mais j'avais une mémoire fantastique. L'instituteur, qui était un débile, d'ailleurs un pervers, disait Chaillou, il n'est pas intelligent, il a une mémoire débile. Et je racontais des histoires à la récréation, à mes camarades. Sauf ceux qui tapaient dans le ballon. Mais il y en avait qui même écoutaient. Et j'inventais les épisodes dont j'ai perdu. J'ai toujours voulu écrire. C'est un mystère. Alors j'avais des carnets où je notais tout ce que je pensais. Et le directeur de l'institution privée où j'étais, c'était à côté de Nantes, était à ce point pervers que pour m'empêcher de parler, il m'avait mis du papier collant sur la bouche pendant 8 jours. Je le soulevais pour manger seulement. Vous voyez le personnage. Parce que je parlais trop. J'apprenais pas mes leçons, mais si quelqu'un récitait une leçon avant moi, je le répétais pareil. Un jour, devant le tableau, il me demandait les chiffres impairs et pairs. Bon, ça m'est resté. Alors, je mets les chiffres pairs, il ne savait pas le chiffre impair. Et un salaud, premièrement, me dit chiffre mère. J'ai écrit, j'ai dit chiffre mère. Tout le monde s'est foutu de moi. Voilà l'enfant que j'étais. Mais en grandissant, je suis toujours resté un peu comme ça, un peu âme, dirais-je. Et je m'invente sans arrêt des choses. Le problème, c'est d'avoir la langue. Quand j'ouvre un livre, la plupart des gens des livres sont rédigés, pas écrits. Ils peuvent être rédigés avec talent. L'écriture, c'est... Comment vous dire? C'est déjà la fiction. Excusez-moi, j'ai tout perdu de la gorge et je parle comme un homme. C'est déjà la fiction. Si j'ai pas la fiction, j'ai pas le livre. La langue n'est pas un instrument, c'est un monde intérieur dans lequel on rentre, où on n'entre pas. Le dernier des Romains, c'est donc un personnage dans un petit lycée de province. Un ami un ami qui est grand latiniste, et qui s'invente des histoires. Il se met le nom de tous les enfants romains depuis les origines, et il s'invente des histoires, et leur manière de parler romain dans les rues de cette petite ville endormie, c'est une manière d'héroïser, de romancer leur vie. Et c'est ça, mon roman, le dernier roman. Mais vraiment être capable d'inventer une langue, capable de dire à la fois le rêve et la réalité en même temps. Donc ça, je puis d'ailleurs sauver la réalité. C'est ça, c'était ça le problème de ce film.
Michel, en même temps, il y a Samuel Canobie, c'est un double de vous-même, en fait.
Oui.
Et donc, une grande partie de votre œuvre s'établit dans une autobiographie. Vous essayez d'élucider à la fois votre généalogie, parce que vous avez une généalogie qui vient, comme vous l'avez dit souvent, à la fois de l'aristocratie du peuple, mais aussi du monde rome, c'est-à-dire des bohémiens. Et c'est une recherche à la fois, je dirais pas en paternité, c'est un petit peu gros ce que je dirais, mais une recherche d'identité, et même pas une recherche d'identité au niveau de la littérature, c'est-à-dire où vous êtes constitué des parentèles d'écrivains. Hein,
oui. D'ailleurs, mes origines sont simples. Genobi n'est pas un nom inventé, c'est le nom d'aristocrates italiens qui sont venus en France au 18e. C'est ma famille maternelle, originaire de Bologne. Ma grand-mère maternelle, à 17 ans, a été séduite par un gitan à Nantes. Elle est partie avec lui, c'est mon grand-père. Il lui a fait deux enfants. Voilà. Et puis de l'autre côté, Chaillou, c'est un autre paysan vendéen. Il se mélange, pour moi. Ça, les racistes me font rire. Bon. Alors, quand j'écris, le côté nomade l'emporte toujours, je m'en rends compte maintenant. La langue, c'est ma roulotte. Et j'avance sur une route poussiéreuse dont j'ignore l'issue. À un moment, l'histoire va me quitter. L'histoire me quittant, c'est un peu triste d'ailleurs, dernière page, je sais que le livre est fini. C'est tout. Je suis peu à peu la route, le chemin que me tracent les mots devant moi, et selon l'obscurcissement de ces mots, j'avance ou pas. Quand ils deviennent trop clairs, c'est que c'est fini, je ne peux rien dire. D'ailleurs, je dirais, on écrit quand on n'a rien à dire. Parce que si on avait à dire quelque chose, on le dirait, à quoi bon l'écrire. L'écriture, c'est le roman de l'ombre. Vous m'écoutez en ce moment. Votre esprit est à la fois avec moi et ailleurs. C'est ailleurs dans lequel est votre esprit, c'est votre roman personnel. Eh bien, un écrivain véritable, c'est celui qui se soucie de ces choses-là. C'est ce que j'appellerais aujourd'hui la romanité de votre imaginaire. Vous voyez, par exemple, ce jeune homme qui se tient comme ça, le geste, non, le restez comme vous êtes, le geste que vous avez est très romanesque. Et moi, je pourrais l'utiliser dans un autre roman. Chacun de mes personnages est fait de multiples gestes entrevus dans la réalité du monde, que je fonds ensemble, et qui me donnent leur ordre. Vous voyez, c'est ça, écrire. C'est inventer des mondes intérieurs permanents. Et un personnage, faut faire attention avec ces personnages, quand vous en inventez un, il se met debout et prend le roman avec lui. Alors il faut le retenir, parce qu'il vous emporterait où vous ne voulez pas aller. Vous voyez. Le dernier roman, donc, c'est ça, c'est une sorte de rêve du réel, qui puise sa mythologie dans le réel lui-même, dans le réel de l'âme un peu gauche, qui supporte le poids du monde. J'ai vécu mon adolescence au Maroc, et j'aime beaucoup ce pays, et des hommes, on croisait plein de paysans dans la campagne, l'âme, et les suivait, chargés de fardeaux, chargés du poids du monde, ça m'avait toujours frappé. Et j'ai voulu faire de l'âme, comme j'ai dit dans le Poitou, mon personnage de roman. Mais l'âme est furieux dans le plaisir, il aimait des juments, détestait les chevaux. Vous voyez, l'âme c'est une bête de plaisir. Et c'est en ce sens-là une bête sexuelle, presque. Donc, il y a une espèce de feu dans l'âme, que son aspect engourdi ne révèle pas facilement.
Sur ce point, je peux te rassurer parce que tu demandais dans...